Puis elle se retourne, sort de la maison, et sans que les fleurs le moindre remords, referme la porte derrière elle. Ses pieds se posent lourdement sur le sol, ils sont nus, mais elle ne ressent pas le froid de la nuit. Pour tout dire, elle ne ressent plus rien, sinon la haine et le dépit. Elle marche. Il semble que ce sont ses jambes et non son esprit qui l'amènent tout droit dans la rue, jusqu'à un carrefour, une autre rue, qui monte, serpente, traverse d'autres artères. Et alors, elle est au cœur du Béziers endormi, devant la maison du prévôt Ardignac, dont elle fait le tour doucement, à la seule lumière de sa torche. Là, derrière, est une grange qui flanque la demeure et qui promptement s'enflamme à son tour. La jeune fille reste immobile, puis, quand la chaleur brûle son visage, elle lâche sa torche et s'éloigne à petits pas. Dans son dos, les flammes grandissent, gagnent la maison et se lèvent dans la nuit comme autant de langues diaboliques. Quand quelques instants plus tard, Alice passe pour la dernière fois la porte Saint-Jacques, les deux bâtisses se consument entièrement et tout Béziers se presse dehors. On crie, on hurle, on court, on se précipite vers les puits pour chercher de l'eau, mais il en manque toujours. Alors on s'agite, on s'affole, on implore Dieu. Mais la jeune fille, elle, marche en silence. Elle est loin. Et bientôt, ce n'est plus qu'une ombre qui s'efface dans la garrigue. C'est Gorgone, c'est Vesta qui disparaît dans la nuit. Chapitre 49. Les faits qui arrivèrent précisément à la même heure en la ville de Paris sont si troublants par leur ressemblance avec ce qui vient d'être décrit que d'aucuns parmi les lecteurs y verront le signe de la Providence, quand il paraît seulement au narrateur que, parfois, les destins de deux inconnus se lient au hasard de la loi des très grands nombres. Mais la manière dont on observe le monde et dont on interprète ses correspondances, finalement, ne change rien à sa splendide et déroutante harmonie. Et libre à chacun de voir de la raison là où surgit l'extraordinaire, ou de la magie là où agissent les mathématiques. Il était fort tard quand Andreas et Robin, qui avaient soupé dans une taverne de la rive gauche après avoir quitté le maître écarte, arrivèrent dans la rue Saint-Denis. D'emblée, malgré l'obscurité, ils virent qu'il y avait là bien plus de monde qu'à l'ordinaire en cette heure, et que régnait sur ces gens un sensible vent de panique et d'effroi.
« Que se passe-t-il, maître ?»
demanda Robin d'une voix pressante. « Lève les yeux, mon garçon, et tu verras, » répondit l'apothicaire, la mine sombre. L'apprenti distingua alors dans les ténèbres du ciel une noirceur plus profonde qui dessinait des volutes de fumée. « Il y a un incendie. » Et comme ces colonnes noires s'élevaient précisément du quartier où était la maison d'Andreas, tous deux accélérèrent le pas, mus par le plus mauvais des pressentiments. Plus ils avançaient, plus la foule était grande, et bientôt ils furent certains, hélas, que le feu venait bien de l'apothicairerie. La première pensée d'Andreas fut pour ses valets. Il se mit aussitôt à courir, et Robin lui emboîta le pas. Au bout de la rue, on voyait à présent les couleurs orangées d'un grand feu qui illuminait la nuit. Il y avait là une grande agitation et il était difficile de distinguer précisément ce qu'il se passait. Mais quand ils furent un peu plus près, Andreas et Robin virent avec horreur la scène qui se jouait devant eux. Des habitants du quartier, le visage ruisselant de sueur et couvert de suie, venaient d'extirper deux corps immobiles de l'apothicairerie en flammes. Et aussitôt, ils surent que c'étaient ceux de Lambert et Marguerite. Robin poussa un hurlement et se jeta en avant. L'apothicaire, la gorge comme soudain obstruée, l'imita, livide. Mais après plusieurs foulées à peine, il fut brusquement arrêté par une silhouette noire surgie des ombres et qui l'attrapa vivement par les épaules. Andreas se défendit un instant, avant de reconnaître la longue chevelure noire de Magdala la Ponente.
« Andreas ! Andreas ! »
criait la catin.
« Laisse-moi, Magdala ! N'y va pas, Andreas ! »
rétorqua-t-elle en le plaquant contre le mur.
« J'ai tout vu et tu dois te carrer »«
Qu'est-ce que tu racontes ?» s'exclama l'apothicaire furieux. « Je dois aller chercher Lambert et Marguerite !»«
C'est trop tard !»
dit-elle d'une voix désolée.
« Ils ont canné l'un et l'autre, regarde !»
Andreas tourna la tête et vit, quelques pas plus loin, Robin, qui à genoux pleurait sur les dépouilles des deux valets. L'apothicaire resta muet un moment, comme s'il ne pouvait accepter ou